Eh bien, chers amis, je crois que je n'ai pas besoin de vous dire que c'est toujours une joie pour moi de venir en ce lieu, de vous retrouver, et je vous avoue que je me sens un peu chez moi quand je viens chez vous, parce que quand vous vous réunissez ensemble, eh bien, qui est-ce qui se trouve au milieu de vous? C'est le Seigneur Jésus. Alors, si le Seigneur Jésus se trouve là, moi je suis aussi chez moi, avec vous. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Et nous sommes ensemble autour du Seigneur, non pas pour écouter un homme, mais pour que, avec vous, j'écoute ce qu'il voudrait nous dire, ce qu'il a à nous communiquer ce soir et peut-être dans la journée de demain, s'il nous permet de nous retrouver. Mon ami Jacques a parlé de ces camps. J'ai complètement oublié, mais ça, j'ai eu une narcose il n'y a pas bien longtemps, c'était au début du mois. Alors j'étais 2h30 sous la narcose. J'ai oublié mes pamphlets pour le... mais ils sont chez Jacques, pour le camp de famille. Mais j'ai apporté quelques-unes de ces petites feuilles où j'annonce que c'est une année de relâche pour le camp Mahanaïm. Nous ne ferons pas de camp Mahanaïm cette année, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Hein. Mais nous avons vraiment été devant le Seigneur pour savoir ce que nous devions faire, parce que figurez-vous que nos amis d'Italie m'ont écrit, ont insisté, il y a 40 ans, vous étiez là pour notre premier camp, et je suis le seul survivant, presque une momie. Alors, vous voyez, enfin ça c'est mes souvenirs d'Égypte. Ils attendent que j'aille là-bas, et je crois que je dois le faire. Mais ça sera tout le mois d'août, et mon docteur, que vous connaissez quelques-uns, a estimé que c'était un peu de la folie de sortir d'un camp le 1er août et puis de commencer le 5 en Italie. Alors, comme aussi plusieurs devaient partir, peut-être les monnettes seraient loin, on a pensé qu'on fait une année de relâche. Vous comprenez bien, c'est pas la fin, parce que on espère encore vivre, à moins que nous soyons tous là-haut. Hein. Mais cette année, je pense que c'est bien. Mais je ferai alors le camp familial. Alors, le camp familial aura lieu du 4 au 11 juillet. Et j'ai proposé, puisqu'on m'a demandé d'être le prédicateur, l'épître de Jacques le matin. 5 études sur l'épître de Jacques, la vie sociale, enfin comment vivre, et j'ai intitulé cela les instructions, les corrections et les consolations pratiques, parce qu'il y a les trois choses là-dedans, hein. Les instructions, les corrections, parce qu'on a toujours besoin d'être corrigé par la parole, parce qu'il y a un tas de choses que nous faisons pas toujours d'une manière très correcte, et puis nous en portons des conséquences. Et si on avait vraiment été imprégné de la parole, on ferait des choses peut-être autrement. Alors nous voulons nous laisser, et moi avec vous, corriger par la parole, puisqu'on a besoin d'être consolé, parce qu'on est dans un drôle de monde, hein, où il y a beaucoup de tristesse, mais nous connaissons un Dieu qui s'appelle le Dieu de toute consolation. Alors, si il est le Dieu de toute consolation, il y a une consolation pour chacun de nous. Et pour notre propre peine, vous devez bien croire cela, votre Dieu est le Dieu de votre consolation, le seul qui puisse vraiment vous consoler dans votre affliction. Il en est capable. Alors nous allons essayer de chercher cela ensemble. Puis le soir, j'aime à parler aux enfants, mais devant les parents. Alors le thème que j'ai pris pour ce camp, c'est « Quelques mamans de l'Écriture sainte ». Alors, je parlerai des mamans aux enfants. Alors, tous les enfants sont là, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, puis les parents aussi, pourront contrôler les hérésies que je leur dis, n'est-ce pas, et me reprendre, parce que je me laisse aussi reprendre même par une femme. Hein. Alors, les mamans de l'Écriture sainte, parce que je crois que c'est très important de souligner le rôle des mamans, puis que vous sachiez bien ce que le Seigneur attend de vous, et aussi la bénédiction que vous pouvez apporter à votre enfant, et surtout avant qu'il ait 5 ans même. Croyez-le, n'attendez pas qu'il ait 10 ans pour commencer à l'instruire, hein. Mais commencez très tôt. la bénédiction que les enfants reçoivent d'une maman qui se donne dès la plus tendre enfance à son enfant. Puis alors le soir, évidemment, on ne va pas oublier les pères. Hein. Alors, la responsabilité et les privilèges d'un père chrétien, hein, parce qu'il y a beaucoup de pères qui ont démissionné. Alors là aussi, nous allons, je crois que ça sera assez complet comme cela. Voilà ce que nous nous proposons, puis enfin le Seigneur disposera de tout cela comme il le voudra. Et je sais aussi que vous prierez pour nous, pour ce camp d'Italie, où je vais me trouver face à des personnes que j'ai enseignées il y a 40 ans, et qui ont maintenant des enfants qui ont 20 ans. Et on est à peu près 200 à 300, hein, de toute l'Italie, de toute la botte, hein, depuis la Sicile, la Calabre, et puis jusqu'au Piémont, ils viennent là à Florence. Et pendant 15 jours, j'aurai cette responsabilité de parler dans un camp familial d'abord, et puis après dans le camp des adultes. Mais là aussi, il faut le renouvellement du Saint-Esprit, parce qu'il croit toujours que j'ai 20 ans, hein, alors qu'il y a longtemps que c'est passé. Mais, et comme j'ai souvent prêché qu'il n'y a pas de vieillesse spirituelle, alors il faut que je mette en pratique et que je m'attende au Seigneur pour être un canal. Et évidemment, pour ces rencontres que nous avons maintenant, parce qu'on y arrive, hein, je me suis tenu devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à nos amis de Hall et des environs? Alors, ça va peut-être un peu vous surprendre. Ce que j'ai cru comprendre, et je ne sais pas si vous serez déçus, mais vraiment, en me tenant devant Dieu pour lui demander un message pour vous, Dieu, vous savez ce qu'il m'a mis à cœur? Il m'a mis à cœur de vous parler des arbres. Dieu, mon Dieu, vous n'êtes pas jardinier. Hein? Oui, il m'a mis à cœur de vous parler des arbres et des leçons que nous pouvons recevoir en nous occupant des arbres de la Bible. Certains se souviendront qu'une année, dans un camp à Anaïm, nous avons parlé des animaux, en nous basant sur ce verset de Job, au chapitre 12, au verset 7, « Interroge les bêtes et elles t'instruiront. » Rendez-vous compte, tous ces professeurs, la girafe qui a quelque chose à vous dire, le lion, le loup peut-être, et tous les autres animaux de la création ont quelque chose à nous dire. Puis les oiseaux aussi. Interroge les bêtes et elles t'instruiront. Elles ne sont pas si bêtes que ça. Croyez-le, tandis qu'il y a des grands professeurs d'université qui ne nous disent que des bêtises, qui nous remplissent la tête de leurs hypothèses. Et c'est vraiment, il faut tout désapprendre une fois qu'on en sort de ces maisons-là. C'est ce que Moïse a dû faire, parce que, instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, pendant 40 ans, il a mis 40 ans pour tout désapprendre, et puis après, à 80 ans seulement, Dieu lui a dit, ben maintenant on peut commencer les deux. Après l'avoir mis pendant 40 ans avec des bêtes, hein, parce que ce qu'il faisait Moïse pendant 40 ans, il conduisait les troupeaux de son beau-père, il avait un beau-père, hein, derrière le désert. Puis c'est là qu'un jour, à 80 ans, tout à coup, il a vu ce buisson ardent et que Dieu lui a parlé, puis a dit, ben maintenant on va commencer. 40 ans plus tôt, le pauvre Moïse, qui avait voulu aller avec sa force, avec toute son intellectualité, avec toute sa connaissance qu'il avait reçue chez les Égyptiens, puisqu'il avait été élevé dans la maison du Pharaon, et il avait tout un avenir devant lui, ben voilà que Dieu lui dit, non, ça n'allait pas. Tout ce que tu as fait, c'est que tu as tué. Quand on sort de ces maisons, on est prêt à tuer. Quand il y a une difficulté, ben c'est ce qu'il avait fait. Alors voilà, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Mais voilà, je voulais vous parler des arbres. Parce que on trouve la mention des arbres depuis quand dans la Bible, quand on ouvre la Bible? Dès la première page. Dans la première phase de la Bible, il est déjà question des arbres. Le troisième jour de la création, on voit apparaître les arbres. Et qui est-ce qui a fait les arbres?
c'est Dieu, c'est le Créateur. Alors, en vous parlant des arbres, on va être tout de suite mis avec l'auteur des arbres. On ne va pas adorer des arbres, mais on va adorer celui qui a fait des arbres et qui va nous donner des leçons extraordinaires, je veux le croire, par les arbres, si nous avons encore des yeux pour voir. Et si nous savons encore observer, comme les animaux peuvent nous enseigner bien des choses, eh bien les arbres, puisque c'est Dieu qui les a faits, ont quelque chose à nous dire. Et ce soir, je ne ferai qu'une introduction assez large, et puis ensuite on parlera de certains arbres à partir de demain, puis on se laissera conduire, parce que je ne peux pas vous parler de tous les arbres de la Bible, hein. Mais... dans le chapitre premier, vous lisez qu'au troisième jour, il a créé les arbres, il a créé l'herbe d'abord, il a fait l'herbe, et puis les arbres, et il est dit au chapitre premier, donc au troisième jour, verset douzième, la terre, verset onzième, puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers. Ah, c'est quand même quelque chose, hein. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Et puis, on apprend même ensuite, dans le même chapitre premier, que Dieu dit, une fois qu'il a eu créé l'homme, il dit ceci, verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, cela sera votre nourriture. Alors, vous pouvez manger des fruits. Hein. Le Seigneur vous dit que les fruits des arbres sont pour notre nourriture. Donc, ça doit être une nourriture très saine. C'est lui qui est l'auteur des arbres et c'est lui qui en fait mûrir les fruits. Et même Dieu aime tellement les arbres que pour la première demeure du premier homme, qu'est-ce qu'il lui a fait ? Un jardin. Hein ? Ça, c'est le chapitre 2. Dans le chapitre 2 de la Genèse, vous voyez que Dieu a fait un jardin tout à fait spécial. Je ne vous parlerai pas de deux arbres qui s'y trouvaient, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on en parle bien souvent, mais je vous parlerai surtout des autres arbres. Il est dit au chapitre 2, verset 8, l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce. C'est comme si on avait dans le chapitre 2 des détails qui ne nous ont pas été donnés dans le chapitre 1er. C'est pas une contradiction. C'est complémentaire l'enseignement du chapitre 2. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis un fleuve sortait d'Éden. Et verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, nous devrions avoir un intérêt pour les arbres, puisqu'on avait été créés pour cultiver et garder un jardin rempli d'arbres. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car au jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, Dieu avait créé toute espèce d'arbre. Et vous voyez au verset 9, il est dit qu'ils étaient agréables à quoi ? À voir. Est-ce que vous avez déjà ? Et puis bon à manger. C'est beau ça, hein ? Quand Dieu fait quelque chose, il fait quelque chose de beau. Les arbres devaient être agréables à voir et puis bon à manger. C'est cela que nous allons d'abord retenir. Donc, si je vous parle des arbres, je vous parle en même temps du Créateur, des arbres et au fond de ce qu'il voudrait nous voir faire, au fond, être aussi intéressé à sa création et aux arbres si agréables qu'il a amené aussi à l'existence, tout ce monde végétal. Et je vous dirais que, qu'est-ce qui a parlé aussi des arbres? Un homme extrêmement sage, dont la parole de Dieu nous dit quelque chose. Un des rois d'Israël, hein? C'est Salomon. Alors, Salomon, lui aussi, il a parlé des arbres. Donc, c'est intéressant, parce que l'homme le plus sage a parlé des arbres. Je vous lis dans le chapitre 4 du premier livre des rois, il est dit, et ceci au sujet de Salomon, verset 29e, « Dieu donna à Salomon, qui était donc le grand roi d'Israël, le plus grand roi d'Israël, de la sagesse et une très grande intelligence, et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens, c'est pas peu dire. Hein. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant l'exactrice, plus qu'aimant que Calcol et Darda, le fils de Malcolm, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques, dont le cantique des cantiques. Hein. Il a parlé sur les arbres. Voilà. Il a parlé sur les arbres. Depuis le cèdre du Liban, qui est le roi des arbres, en quelque sorte, le roi des forêts, hein, depuis le cèdre du Liban, jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Ces petits bouquets, n'est-ce pas, d'arbrisseaux qui sortent de la muraille. L'hysope, on le prenait pour en faire, en quelque sorte, hein, des pinceaux, hein, ou des, un petit balai pour asperger de sang ou d'eau au moment des purifications. Donc, au fond, Salomon a parlé de tous les arbres, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un arbrisseau, parce que la Bible est remplie de ces choses. Alors, voilà, mais Salomon n'a pas seulement parlé des arbres, parce que si vous lisez le livre de l'Ecclésiaste qu'on lui attribue aussi, dans ce qu'il nous dit, puisqu'il avait toutes sortes de possibilités, il a voulu essayer de tout. Dans le chapitre 2 de l'Ecclésiaste, nous lisons ceci. J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu trouveras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit au rire insensé, et de la joie, à quoi sert-elle? Alors, je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qui est bon pour les fils des hommes de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, et c'est vrai. Je me bâtis des maisons, puis qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Je plantais des vignes. Lui aussi s'est mis à imiter le Créateur. Je me suis mis à planter des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Donc, vous voyez, Salomon n'a pas seulement parlé des arbres, mais il en a planté. Il a créé lui-même des jardins. L'homme si sage et qui était le roi Salomon a aussi lui parlé des arbres. Mais il y a un plus grand que Salomon, que j'aime à vous citer, qui lui aussi a parlé des arbres. Qui est-ce qui est appelé plus grand que Salomon? Qui est-ce qui a dit, il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon? C'est Jésus lui-même. Jésus a dit qu'il était plus grand que Salomon. Et si vous lisez les évangiles, eh bien, vous verrez que lui aussi, il a parlé des arbres. Et je suis très touché de la manière dont il a parlé des arbres et des leçons qu'il nous montre qu'on peut tirer de cette vie végétale. Il nous a aussi dit que on devait être enseigné par les oiseaux. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant leur Père céleste les nourrit. Donc nous avons une leçon à retenir quand nous regardons les oiseaux. On nous dit, mais qu'est-ce qui nourrit les oiseaux? Qu'est-ce qui s'occupe des oiseaux? C'est notre Père des cieux. Puis les oiseaux, ils n'ont pas tellement de stress. Les oiseaux, ils volent, les oiseaux, ils chantent le matin, je ne sais pas ce que vous faites tout le matin, mais enfin, quand on va en tout cas en Orient, on est réveillé le matin par le chant des oiseaux à 4 heures du matin, on ne peut pas dormir, pas seulement parce que le coq a chanté, mais parce que les oiseaux sont là, qui vivent et qui louent le Seigneur. Il y a quelque chose de formidable. Alors, laissons-nous enseigner par la vie animale, oui aussi, mais aussi par la vie végétale. Considérez les lys des champs. Ça, c'est la vie végétale. Hein. Considérez les lys des champs, comment ils croissent. Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Puis vous, vous faites du souci pour la mode, pour ce que vous porterez, etc. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin aussi du vêtement. Ne vous mettez pas en souci pour ces choses. Et c'est toujours sur ces choses-là qu'on est en souci, de manger, de boire. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Votre Père Céleste sait. Alors, Jésus, donc, nous a parlé de la vie végétale. Et même, il a dit certaines choses au sujet des arbres. Dans le Sermon sur la montagne, je prends au chapitre 7 ce qu'il dit. Et qui est très important. Il dit ceci, verset 16, vous voyez qu'il s'y connaît. Parlant des prophètes et des faux prophètes, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Donc il s'y connaissait. Il l'avait observé. On ne voit pas des raisins sur des épines. Ou des figues sur des chardons. Il a observé cela. Il n'y a pas de figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et ça, c'est Jésus qui l'a dit. Un bon arbre, il va porter de bons fruits. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons revoir aujourd'hui. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre porter de bons fruits. Alors que un tas de gens, au fond, aujourd'hui, voudraient changer le monde en faisant porter de bons fruits à de mauvais arbres. Alors que le mauvais arbre, il faut lui mettre la cognée. Tandis que, au fond, tout l'effort du monde, c'est de faire porter de bons fruits à de mauvais arbres. Il ne le peut pas. Donc, le monde ne va pas s'améliorer de cette façon-là. Mais, alors, si c'est un bon arbre, il ne doit pas porter de mauvais fruits. Ça, c'est catégorique. Le Seigneur le dit. Un bon arbre ne portera pas de mauvais fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, qu'est-ce qui lui est réservé? Il est coupé et il est jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et puis, je pourrais prendre encore au chapitre 12 de Matthieu, quoique il y a encore bien d'autres passages, mais je vous note le verset 33e, simplement pour vous montrer comment Jésus parlait des arbres. Il dit ceci, verset 33, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, c'était là au moment où Jésus était là, ni dans le siècle à venir, quand il régnera. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à ses fruits. » Vous êtes d'accord? C'est moi qui dis ça? Non, c'est un plus grand Salomon qui dit « On connaît l'arbre à ses fruits ». Il y aurait un tas de choses qui sont réglées si vous vous souvenez de ça. Vous ne pouvez pas être trompé, on ne peut pas vous tromper. On connaît l'arbre à ses fruits. C'est pas moi qui vous le dis, c'est le Seigneur. Et je vous cite encore Luc 21, simplement comme introduction, au verset 29e, pour bien souligner que le Seigneur prend les arbres en exemple. Il dit ceci au chapitre 21, j'ai souligné le verset 29. Il leur dit une comparaison. Voyez le figuier. Donc on va parler du figuier. Hein. Mais il dit, voyez le figuier. Si je dis voyez le figuier, donc je vous dis, regardez un figuier. Évidemment, vous me direz, au Canada, on ne voit pas de figuier. Oui, ben moi j'en ai deux dans mon jardin à Nice. Bon, alors, voyez le figuier. Et tous les arbres, si vous n'avez pas de figuier, il y a d'autres arbres. Et regardez les autres arbres. Hein. Il y a des érables ici, il y a tout ce que vous voulez aussi. Il y a des bouleaux. Regardez un peu vos arbres au Canada. Il y a de beaux arbres aussi au Canada. Hein. Eh bien, si je regarde le figuier, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant que l'été est proche. Hein. Mais les arbres vont bourgeonner bientôt. Hein. Eh bien, vous saurez que l'été est proche. Donc, les arbres, vous enseignent, mais il faut les regarder. Si vous ne les regardez jamais, vous les tournez comme ça, ben, vous ne voyez rien des beautés de Dieu. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc, je dis simplement ça pour vous montrer que c'est important de s'occuper aussi des arbres. Vous voyagez, vous traversez la rue, vous voyez un arbre, eh bien, vous pouvez réfléchir. Un arbre peut être un prédicateur. Un arbre peut vous parler. Un arbre peut vous enseigner et vous en dire des choses qu'un bon prédicateur ou un bon orateur ne pourrait pas vous dire. Et vous entendrez cela dans le silence de votre cœur. Regardez les arbres, regardez le figuier et d'autres arbres si vous le voulez. Et alors, si je prends maintenant l'apôtre Paul, est-ce que lui a parlé des arbres? Je vous dirai, on le verra peut-être demain, il a surtout parlé d'un olivier. Puis on dit, ben, ce pauvre Paul, quand on lit ce qu'il a écrit sur un olivier, il ne devait vraiment pas s'y connaître. Hein, parce qu'il a fait une greffe à l'envers. Hein. Il parle d'un olivier sauvage qu'on greffe sur un olivier franc. C'est tout à fait contraire. Hein, on fait le contraire. On greffe un olivier franc sur un olivier sauvage. Alors on a dit, ben Paul, vraiment, avant d'écrire ça, il aurait dû aller prendre une leçon. Mais c'est des gens qui ne savent pas lire, parce que nous allons voir que si nous lisons bien, nous verrons que Paul dit, si contre nature, hein, il dit contre nature, hein, mais il montre que pour Dieu, eh bien, même des choses qui sont contre nature sont possibles parce que Dieu est Dieu et rien n'est impossible à Dieu. C'est un thème de nos camps, le Dieu de l'impossible. Il peut même faire porter du fruit à un olivier sauvage greffé sur l'olivier franc. C'est ce que nous allons voir. Il ne faut pas tout de suite penser que les écrivains bibliques étaient des ignorants. Paul sait très bien ce qu'il dit. Et il faut peser les mots. Et comme on l'a dit dans les camps, il y a 70 sens différents à chaque verset biblique. Mais pas des sens qui se contredisent, mais que l'on réunit, qu'on met ensemble. Et alors ça nous donne une richesse. Vous pouvez lire 70 fois la Bible sans que ce soit une répétition, parce que vous y trouverez toujours quelque chose de nouveau à chaque verset. C'est en tout cas ce que disent les rabbins, et c'est vrai, et moi j'en fais aussi l'heureuse expérience. Alors, donc, Paul a parlé de l'olivier, mais prenez maintenant Jacques, si vous allez... aussi dans l'épître de Jacques. Eh bien, Jacques aussi a parlé des arbres. C'est pour vous montrer que c'est, il en est question à travers toute la Bible. Et Jacques aussi dit une chose qui est très belle, verset 11 du chapitre 3. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? un figuier, mes frères, voilà qu'on retombe sur le figuier, hein. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives?
Vous avez déjà vu un figuier qui produit des olives?
C'est bon sens, hein. Si vous êtes figuier, Dieu ne vous demande pas de produire des olives, chacun selon ses dons. Et là, il y a tout un enseignement. Si moi, je suis figuier, je ne peux pas vous donner des olives. Vous aurez de moi que des figues. Bon, si vous ne les aimez pas, ben n'en mangez pas. Mais une vigne, est-ce qu'elle peut produire des figues? Si tu as une vigne, qu'est-ce que tu vas produire? Du raisin. Ben, sois content de produire du raisin. Si c'est là ton don, comprenez-vous? Mais nous, nous voulons toujours produire autre chose que ce qui est naturel. C'est ça qui est un enseignement aussi dans les arbres. Chaque arbre produit son fruit. Alors, soyons heureux de cette diversité et n'envions pas l'olivier ou le figuier, mais soyons heureux. Le figuier porte des figues, l'olivier porte des olives, et puis la vigne, eh bien, elle produit le raisin. C'est simplement pour vous montrer combien nous pouvons être instruits simplement en observant les arbres. Et puis, pour bien montrer que ça nous concerne, les arbres, dans l'épître de Jude, il est question des arbres aussi. Mais il est question des faux chrétiens, de ceux qui, soi-disant, sont intéressés, hein, viennent aux églises, viennent aux réunions, etc., mais qui ne portent pas de fruits. Eh bien, qu'est-ce qu'il est dit d'eux? Ce sont des arbres, verset 12, ce sont des écueils dans vos agapes. Oh, mais vous direz, on a parlé qu'il y aura une agape demain. On espère bien qu'il n'y aura pas d'écueils dans notre agape de demain. Hein. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres. Hein? Donc, des hommes peuvent être comparés à des arbres. Ce sont des arbres d'automne sans fruits. Qu'est-ce qu'il est dit d'eux? Deux fois morts, déracinés. Deux fois morts, déracinés. Et puis, alors, on pourrait parler aussi de l'Apocalypse, où là aussi, il est question d'arbres et de paradis. Et je vous laisse encore un verset dans Matthieu, au chapitre 15, le verset 13e, où Jésus disait, au sujet des arbres, et c'est aussi à notre sujet, chapitre 15, verset 13, il dit ceci, « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déraciné. » Donc, vous voyez, chaque plante est plantée par le Père céleste. Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Alors, nous aussi, nous sommes des plantes. Nous sommes comme des arbres. Et si c'est le Seigneur qui nous a plantés, qu'est-ce qui devra être produit? Du Mais il faut laisser travailler le jardinier. Hein. Le jardinier va faire son travail. Et qui est le jardinier? C'est le Seigneur. Hein. C'est Dieu. Qui est le vigneron? Le Père est le vigneron. Et puis nous, nous sommes les sarments. Et c'est Jésus qui est le cep. Donc, nous allons avoir bien des choses à considérer. Alors, maintenant, simplement un petit peu pour vous amuser, pour vous intéresser, parce que c'est mieux que les mots croisés, la Bible. Hein. Quel est le premier arbre qui soit mentionné dans la Bible? Je ne parle pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou de l'arbre de vie, ça c'est une autre affaire, hein. C'est un langage symbolique. Mais il est parlé de ces arbres agréables à voir. Selon vous, quel est le premier arbre dont il est question? Oh, je ne veux pas vous faire passer un examen, puis d'abord je ne suis pas professeur. C'est pas un arbre dont on a mangé d'abord des fruits.
on en a pris des feuilles pour se couvrir. Alors c'est quoi? C'est le figuier. Il y en a qui n'étaient pas contents et ils ont pensé que c'était un bananier qui avait eu une erreur parce qu'il fallait que les feuilles de banane soient plus grandes, pas pour couvrir un peu les cuisses. Bon, non, mais c'était pas un bananier, c'était réellement des feuilles de figuier. Donc le premier arbre dont il est question, ce serait le figuier. Et alors, s'ils ont pris les feuilles de figuier, quand ils étaient cachés sous les arbres, ils étaient aussi cachés sous les figuier, parce que vous vous souvenez que les figuiers, ça nous couvre complètement. Qui est-ce qui s'était caché sous un figuier, qui méditait sous un figuier dans le Nouveau Testament? Nathanaël, premier chapitre de Jean, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Et Adam s'était caché sous le figuier, parce que le figuier, justement, il nous couvre. Mais il s'était fait des pagnes avec des feuilles de figuier, pas avec des feuilles de vigne, mais avec des feuilles de figuier. Alors, c'est le premier arbre qui est mentionné. Maintenant, quel est le deuxième arbre? Ça, c'est un peu plus difficile. Qu'est-ce que Noé a dû fabriquer? Une arche, n'est-ce pas? Et alors, dans les versions habituelles, il est dit, enfin dans la version la plus littérale, il est dit du bois de gopher. Mais gopher, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que c'est ce bois de gopher? Et puis dans la version, je crois, seconde, celle que j'ai ici, il est dit, fais-toi une arche de bois, oui, de bois de gopher. Il a mis aussi gopher, excusez-moi. Ils ont mis aussi gopher. Mais d'autres versions disent de bois résineux. Mais Chouraki, qui est juif et qui vient de traduire la Bible, eh bien, il a mis simplement ce que les plus grands théologiens et hébraïsants pensent, c'était du cyprès. Fais-toi une arche de bois de cyprès, n'est-ce pas? Alors, ce serait le cyprès qui serait le second arbre, ou le bois de gopher, si vous voulez. Mais ce qui est très frappant, hein, c'est qu'on ne trouve que deux fois... Fais-toi une arche, là. Il n'y a que deux fois ce mot dans la Bible, Théba, et on le retrouve dans l'Exode, le petit coffret qu'a fait qui? La mère de Moïse. La mère de Moïse s'est inspirée de l'histoire de Noé. Et bien sûr, elle n'a pas fait un bateau comme Noé, mais pour mettre le petit Moïse, elle a fait un coffret, comme cela. Et comme les Égyptiens employaient aussi ce bois pour y mettre, pour faire des cercueils, ou alors pour y mettre les momies, ou des papyrus, hein, parce que ça se conserve bien, des petites cassettes où on mettait des papyrus. Mais c'est très intéressant de voir que Dieu indique à Noé quel bois il doit prendre pour faire son arche. Bon. Alors, passons au troisième arbre, alors, puisque on met le bois de gopher entre parenthèses, hein, puisque ce serait le cyprès. Quel est le troisième arbre dans la Genèse? Parce qu'il y en a beaucoup déjà dans la Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les eaux ont commencé à baisser, Noé a lancé un corbeau, le corbeau est allé, il est venu. C'est l'olivier, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on apprend, c'est qu'il y avait des oliviers. Et la colombe, elle est revenue un jour avec un rameau d'olivier, d'où l'olivier est un signe de paix, n'est-ce pas? Le rameau d'olivier, dans le monde entier, c'est le signe de la paix. Donc vous voyez que les arbres ont une signification et vont nous parler et peut-être aussi un peu nous passionner et nous dire, mais au fond, ce livre, il vaut la peine d'être un peu revu ou relu, n'est-ce pas? Pas revu pour le corriger, mais je voudrais quand même un peu m'intéresser à ça. Il doit y avoir des richesses fantastiques. Surtout que, ensuite, on va voir des arbres qui ont de bons fruits. Alors, après l'olivier, et qu'est-ce que vous verriez comme arbre dans la Bible? J'en reste toujours avec notre cher Noé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté une une vigne, et le bois, il est parlé du bois de la vigne. Hein. Et puis, alors, comme il ne sait pas s'il savait bien ce qu'il faisait, il en a trop bu du fruit de la vigne, et puis il a oublié de mettre sa chemise, et il s'est endormi dans son ivresse tout nu. Et vous connaissez l'histoire, hein. Et on l'a trouvé, son fils l'a trouvé nu dans sa tente, sans couverture, sans rien, puis il est allé le raconter à ses deux frères, mais les deux frères ont eu tellement de respect pour leur père, malgré qu'il avait eu cet accident, cette ivresse, ils ont pris une couverture, et puis ils sont allés à reculons, et ils ont laissé tomber la couverture sur leur père. Hein. C'est le respect que l'on doit avoir. Au lieu de découvrir la faute des gens, on devrait la couvrir. Hein. L'amour couvre une multitude de péchés. Vous savez, tout nous enseigne. Mais Noé, donc, il s'est laissé prendre par le fruit de la vigne qui est considéré comme un arbre dans l'Écriture. Donc, c'est la vigne. Puis, alors, après, qu'est-ce que vous trouvez comme arbre? Quand Abraham est arrivé dans le pays de Canaan, qu'il est arrivé à Sichem, il a dressé sa tente où? Qu'est-ce qu'il y avait là? Des chênes. Les chênes de Morée, près de Sichem. Et ensuite, quand il est allé plus loin, il a dressé aussi sa tente, sa demeure, aux chênes de Mamré. Il y a les chênes de Morée, quand il est arrivé là à Sichem, après il est descendu en Égypte, il a eu toute cette espèce d'aventure là-bas, pas très heureuse, mais ensuite il est remonté, et il est allé à Hébron, et là, je connais un peu le coin, et il a vécu donc à Mamré, il y avait beaucoup de chênes, et il y en a encore, les chênes de Mamré. Et puis, si vous continuez la lecture de la Genèse, vous verrez que Jacob, revenant de son long exil de 20 années, arrive près de Bethel, et puis tout d'un coup le Seigneur lui a parlé, et il a dit à toute sa famille, il a dit maintenant, toutes les idoles que vous avez prises dans votre pays, vous allez me les donner, et on va les enterrer. Et vous savez où ils les ont enterrés? Sous un térébin. Vous savez ce que c'est qu'un térébin? Alors voyez, dans la Genèse, vous avez déjà pas mal d'arbres. Hein. Il y a aussi le térébin où on a enterré les petites statuettes, même que Rachel avait ramenées, les téraphées. Et puis vous vous souvenez, hein, c'est quelque chose de terrible. Les paroles que l'on dit. Jacob avait dit à Laban, si on trouve tes idoles hein, dans la famille, la personne qui les aura mourra. Hein. Puis c'était qui? C'était Rachel. C'était sa femme qui était enceinte. Puis dans le même chapitre, qu'est-ce qu'il y a eu? Elle est morte. Elle a donné ses idoles, oui. On a enterré ça sous le térébin. Je vous parlerai un peu des térébins de demain. Eh bien, parce qu'il en est souvent question, des térébins. Ensuite, alors, la pauvre Rachel, elle est morte. Vous voyez, il faut faire très attention quand on porte des jugements. Il avait dit cela. Et Rachel est morte en couche. Vous savez, nos lèvres, hein, faut faire attention à ce qui passe sur nos lèvres. Faut pas parler légèrement. Parce que des fois, on prononce des jugements. Puis si Dieu nous prend au mot, c'est que c'est terrible. Et nous devons penser que Dieu nous prend au mot. Je vous dis pas ça pour vous faire peur, mais pour vous encourager. Parce que si vous dites des choses bonnes, si vous dites des choses justes, si vous demandez des choses qui sont selon Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il vous les accordera. Parce que Dieu est Dieu et il n'est pas sourd. Et il va vous répondre. J'ai un Dieu qui répond à mes prières. J'ai un Dieu qui consent à parler avec moi. Eh bien, voilà des exemples que vous trouvez déjà dans le livre de la Genèse. Il est parlé de pas mal d'arbres, et j'aurais pu parler aussi du tamaris, un petit arbuste que Abraham a planté à Beersheba après avoir fait prêter serment avec Abimelech. Il a planté là un tamaris. Et on trouve souvent des tamaris. Quand je m'en vais à Beersheba, je pense toujours à Abraham parce qu'il y a un tas de tamaris par là, au bord du chemin. Les tamaris de Beersheba. Puis alors, si vous allez maintenant simplement dans l'Exode, on va bientôt terminer, je ne vais pas vous fatiguer, mais simplement pour ouvrir des avenues pour qu'on puisse parler demain, eh bien, quels sont les arbres qu'on trouve surtout dans l'Exode? Dans l'Exode, c'est l'histoire du désert. Hein? Et qu'est-ce qu'il y a comme arbre dans le désert? Il y avait des palmiers, quelques palmiers. À Élim, à Primara, où ils ont eu les eaux amères, ils sont arrivés à un lieu qui s'appelait Élim, où il y avait 70 palmiers, mais 12 sources d'eau. Parce que le palmier, c'est l'arbre qui a besoin de beaucoup d'eau. Hein. Les pieds dans l'eau, la tête au soleil. Ça vous dit quelque chose, à vous? C'est comme ça, nous devons être comme des palmiers. Hein. C'est bon, un palmier. Hein. La tête au soleil, mais les pieds dans l'eau. Hein. Se nourrir, parce que l'eau est toujours le symbole de la parole, se nourrir de la parole, puis alors on aura cette croissance, puis alors la chaleur du soleil, le palmier qui reste vert dans le désert, le juste croîtra comme le palmier, psaume 96, hein, on en parlera de cela, n'est-ce pas, puis il sera en même temps comme le cèdre du Liban qui résiste au froid. Un vrai chrétien doit résister aussi bien à la température froide que sa température chaude. Hein. Il ne dépend pas des circonstances. Il est palmier et il est cèdre en même temps. Comprenez-vous? Et le juste est comparé justement à la beauté du palmier. Là où il y a un vrai chrétien, eh bien, on devrait savoir qu'il y a de l'eau. Hein. Là où on voit un palmier, on sait qu'il y a de l'eau. Et puis, là où il y a de l'eau, on sait qu'il peut y avoir un palmier. Il y a les deux choses, comprenez-vous? Donc, nous allons nous laisser enseigner dans la journée de demain, si Dieu le permet, par ces arbres et tout ce que le palmier peut donner. Non seulement sa beauté, son élégance, mais ce qu'il donne, le palmier dattier, c'est fantastique. Il peut donner à 200, à 300 kilos de dattes. C'est une fortune pour l'Orient, cela. Et alors, si ça ne va plus, s'il n'y a plus de dattiers, de palmiers qui donnent des dattes, eh bien, c'est aussi la misère pour les pauvres gens. Donc, il y a le palmier, mais l'arbre qui est le plus répandu dans le désert, surtout du Sinaï, parce qu'ils ont dû faire des meubles, hein, c'est l'acacia. Quel est le bois qu'il lui a dit de prendre? Et moi, je trouve que c'est ça qui est merveilleux. Il vous demande de faire une œuvre, mais en même temps, Dieu vous donne les moyens de la faire. C'est ça la volonté de Dieu. Ce sera du bois d'acacia et qui sera employé pour faire le tabernacle. Il ne lui dit pas, fais-moi un tabernacle avec des cèdres. Il n'y avait pas de cèdres. Salomon, lui, à Jérusalem, pouvait se payer les cèdres du Liban, grâce à Hiram, son ami, à Tyr. Hein? Alors, on faisait venir les cèdres du Liban pour qu'il puisse faire sa maison de cèdres. Et puis, le temple était fait de cèdres et de cyprès. C'est vrai, à Jérusalem. Mais Dieu n'a pas demandé à Moïse de faire quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, prends du bois d'acacia. Et le bois d'acacia, c'est un bois imputrescible et extrêmement léger, le plus léger qu'on puisse trouver. Et alors, pour quelle raison est-ce qu'il demande du bois léger? Parce qu'il fallait transporter, le tabernacle devait être transporté, les planches devaient être transportées, les piliers devaient être transportés, la table devait être transportée par des barres, l'arche devait être transportée, mais tout était recouvert d'or. Mais le bois était très léger. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient nous parler. Quand nous voyons l'arbre de l'Exode, c'est l'acacia. L'arbre qui était là, commun, eh bien, prend du bois d'acacia pour la construction de l'arche. Je demande à Dieu que le Saint-Esprit vous inspire et vous montre déjà bien des choses dans ce domaine-là. Et alors, quand Dieu parlait de ce pays de Canaan où ils allaient entrer, je vous cite seulement pour terminer au chapitre 8 du Deutéronome, il leur dit que c'est un pays, le pays de Canaan,
C'est un pays de sources, d'eau profonde, de vallées et de montagnes. Et il lui dit, c'est un bon pays où il y a du froment, verset 8, de l'orge, des vignes. Alors voilà, on trouve la vigne. On y trouve des figuiers, on y trouve des grenadiers. Et alors on verra ce que c'est que les grenades et à quoi servent les grenades. Et puis, un pays d'oliviers, de figuiers, de grenadiers, et un pays d'oliviers, et comme on l'a vu aussi, il y avait des palmiers, et nous allons voir ce que le figuier nous enseigne, ce que l'olivier nous enseigne, et je vous ai dit que c'était le dernier verset, mais je vous en cite encore un autre, parce que, je m'excuse, oui, c'est le dernier des derniers, hein. Chapitre 9, des juges, parce que c'est très intéressant, vous connaissez l'histoire, hein, de l'apologue, qu'on appelle l'apologue la petite fable, du dernier fils du réchappé de qui? De Gédéon, hein. Vous savez qu'on a tué les 60 frères de Gédéon, les 60 fils de Gédéon, puis il y en a un qui a échappé, et puis on avait mis à Abimélec le frère de celui qui a échappé, mais qui n'était pas le fils de la vraie femme. C'était le fils d'une prostituée. Et alors, on a choisi cet Abimélec pour être roi. Et alors, Jotham, donc le réchappé, fils vraiment de Gédéon, verset 7 du chapitre 9 des juges. Jotham a su informer qu'on avait proclamé Abimélec à Sichem, près du chêne. Là, il y a aussi un chêne, le chêne dans Sichem. Et c'est cette. Il alla se placer au sommet de la montagne de Garizim. Vous savez, cette fameuse montagne où Jésus était au pied de la montagne en parlant avec qui? La femme samaritaine. Hein, qui disait, est-ce que c'est sur cette montagne ou bien à Jérusalem qu'il faut adorer? Parce que les Samaritains adoraient sur le mont Garizim. Alors, vous voyez, on arrive là à Garizim. Il va sur la montagne de Garizim, qui est donc en Samarie, et voici, il cria à haute voix. Parce que Sichem est juste au bout. Sichem, c'est Naplouse, l'actuel. Alors, quand on est sur la montagne Garizim, il y a Naplouse, Sichem, c'est là au bas. C'est là qu'est enterré Joseph, et puis qu'il y a la fontaine de le puits de Jacob. Hein. Elle dit, écoutez-moi, habitant de Sichem. Et vous savez, depuis cette montagne, la voix porte, c'est quelque chose de fantastique. Vous pouvez entendre depuis le fond de la vallée. Habitant de Sichem, et que Dieu nous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre sur leur tête. Vous vous rendez compte? Les arbres, on leur donne comme une personnalité, ils veulent un roi. Et alors, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Et qu'est-ce que l'olivier a répondu, puisque les arbres parlent? Alors, il a dit qu'il batte des mains. C'est pas pour vous encourager à taper des mains dans tous les cantiques que vous chantez. Je veux bien que vous tapiez une fois des mains pour quelque chose de vrai, mais si vous commencez à faire des mouvements de danse tingui, comme je vois dans certains milieux, ben, c'est agaçant, parce que on ne sait plus pourquoi ils applaudissent. Hein? On dit le diable est puissant, ils applaudissent. Bon, ça colle pas. Parce qu'on est tout à fait déconnecté, hein, on se laisse aller. Attention. Les arbres partirent et dirent à l'olivier, veux-tu régner sur nous? Et l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile? Donc vous voyez ce que peut produire l'olivier déjà. Qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes. Pourquoi les hommages de Dieu et des hommes? Parce que l'huile, on l'employait pour l'encens, n'est-ce pas, pour le parfum, et puis pour oindre les rois et les prophètes. Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller me placer sur les arbres? Non. Alors les arbres dirent au figuier, on parle maintenant au figuier, vous voyez l'importance qu'il a, viens et règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Vous voulez planer, vous? Vous voulez être roi de quelque chose? Ça ne me dit rien d'aller planer sur vous, dit le figuier. Vous voyez comme c'est passionnant. Alors, les arbres dirent à la vigne, « Viens-toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres ?» Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Un buisson d'épines. Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens-toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. » Ça pique. Eh bien, c'est exactement ce que les hommes font aujourd'hui. Ils ont choisi le buisson d'épines et ils se piquent de tous les côtés. C'est le stress et tout ce que vous voulez. Alors, vous allez prier maintenant, vous autres, pour que Dieu m'inspire, pour qu'on fasse le choix, parce que je ne peux pas vous parler de tous les arbres, hein, mais on va en prendre quelques-uns, puis on va essayer d'en tirer une instruction, mais qui nous reste, qui se grave, parce que des fois, ces leçons de choses sont très importantes, et on s'en souvient, on est en voyage, on est ici ou là, puis on se dit, bien voilà, qu'est-ce que le figuier m'apporte, qu'est-ce que l'olivier m'apporte. Et puis vous verrez, hein, les gens qui ont des enfants et des petits-enfants, il paraît que vous en avez tellement dans petits-enfants que vous ne savez pas où les mettre. Eh bien, on va parler d'un plan d'olivier, des parents qui sont entourés de plans d'olivier, qui sont heureux, et que Dieu donne aussi ce qui est nécessaire pour les enfants. Et puis, si nous sommes solitaires, eh bien que nous devenions aussi comme des cyprès verts, que nous ne nous desséchions pas. Un cyprès vert, toujours verdoyant, et qui se dresse vers le ciel. Seigneur, nous voulons te demander que tu nous bénisses par la lecture de ta parole, que nous puissions y être attentifs, et que ce que tu veux nous donner comme leçon, nous puissions le recevoir dans nos cœurs, et que même en parlant des arbres, ce soit de toi, le Créateur, que nous soyons occupés des leçons que le Seigneur veut nous donner. Par tout ce monde végétal, nous ne savons plus écouter, nous ne savons plus regarder, nous sommes comme des aveugles, nous sommes comme des sourds et nous voulons nous en humilier. Nous n'avons plus de goût, nous avons perdu le goût des fruits. Nous voulons te demander que tu nous redonnes un goût nouveau, que nous puissions aussi trouver de l'attrait à ces arbres et à leurs fruits qui ne nous sont pas défendus. C'est la grâce que nous te demandons pour nous tous, en te priant de nous donner une nuit de repos et de préparer la journée de demain, de la présider et de faire pour nous, pour nos enfants, tout ce qui est dans ton cœur, en bénédiction et en grâce, jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen.